Si on vous parle d'éducation sexuelle, vous penserez peut-être à Bernard, votre prof de 4e, qui vous apprenait à enfiler une capote sur une banane, ou aux photos d'accouplement d'animaux dans vos livres de bio. Heureusement pour nous, il y a bien plus à en dire. Cette émission, en 3 épisodes, vous propose une série de portraits pour raconter différentes facettes de l'éducation à la sexualité d'hier et d'aujourd'hui. Dans cet épisode, vous entendrez Chloé, Janine, Elsa et Alexandre nous confier leurs expériences personnelles ou professionnelles sur ce sujet.
Bonjour, je suis Chloé. J'ai 28 ans et je suis professeure des écoles depuis maintenant 5 ans. La seule fois où j'ai pu aborder la sexualité avec des enfants, c'était avec mes grands de CM2, parce qu'il y avait eu un événement assez choquant au village où j'enseignais. Il y avait un homme qui avait été qui faisait du, comment on appelle ça, de l'exhibitionnisme, voilà. Et là, du coup, on avait abordé ce sujet-là à l'école parce que il s'était déroulé ça dans le village, quoi. Il y avait une petite, en fait, la petite sœur d'un de mes élèves qui avait subi ça. Un mec qui était sorti de nulle part, qui avait montré son sexe à tout le monde. Et donc, du coup, ça avait questionné beaucoup d'enfants. Et du coup, on en avait parlé, on avait parlé tous ensemble. Ce dont on avait parlé, c'est plutôt la notion de notre corps, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer et de ne pas montrer aux autres. D'avoir conscience aussi qu'il y a des gens que c'était pas normal de montrer son corps comme ça à des enfants. Et que notre corps, nu, en tout cas, il pouvait avoir des impacts sur les autres et que c'était pas normal de le montrer comme ça devant tout le monde, quoi. Et je pense que ça serait peut-être un petit soulagement que les enfants puissent en parler aux parents et qu'après les parents puissent réagir à ce qui s'est passé à l'école. Je pense que ça pourrait être plus facile pour eux. Ah oui, il s'est passé ça à l'école, ah bah du coup ils peuvent rebondir dessus. Bah après c'est toujours la même chose, hein. Pas dans toutes les familles. Hein. Ça réagirait je pense dans certaines familles, mais dans d'autres pas du tout. Dans d'autres ça les ferait flipper ou même en mode non mais faut pas trop en parler. Alors, dans ma famille, clairement, mis à part le jour où ça arrive, il faudra bien te protéger, il faut bien faire attention de ne pas tomber enceinte, et des MST, sinon pas grand-chose. On m'a pas parlé trop de consentement, de base. À partir du moment où j'avais eu mes premières relations sexuelles en mode pénétration, bah là, j'en ai parlé pour pouvoir avoir la pilule, mais sinon, ça n'a jamais été très, très fluide, quoi. Et à l'école, le seul souvenir que j'ai, c'est... la banane avec la capote, quoi. C'est tout. Mais pas de discussion concrète. Qu'est-ce que c'est le sexe? À partir de quel moment on fait du sexe avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Comment bien le faire pour que les deux se sentent à l'aise, se sentent bien? Tout ça, on m'en a jamais parlé. Et même étant petite, j'ai pas souvenir qu'on m'ait déjà dit « Attention, là, c'est une zone, tu vois, que personne ne doit toucher. » Ça, j'ai pas souvenir d'avoir eu ces discussions avec mes parents. Mais peut-être parce que j'étais trop petite. J'ai entendu vraiment parler que de sexualité à partir du moment où forcément j'avais quelqu'un qui allait me pénétrer, quoi, tu vois, par rapport au MST et par rapport au fait de tomber enceinte. Comment je me suis renseignée sur le sujet à partir du moment où je voyais que j'étais attirée par des hommes et où je voyais que j'allais avoir des choses sexuelles avec des hommes. Où je me suis dit, là, il faut que je me renseigne. Surtout par rapport au fait de peut-être tomber enceinte, quoi. Moi, j'ai vraiment souvenir de ça. Il y a un an et demi, quand ce qui m'a fait un gros, pas déblocage, mais vraiment une vraie ouverture dans ma sexualité, c'est quand pour la première fois, je me suis masturbée et j'ai réussi à me faire jouir toute seule. Vraiment. C'est le jour où j'ai quitté mon ex et que je me suis sentie totalement avec moi-même, libre. Et que je me suis touchée pendant hyper longtemps et que j'ai réussi à me faire jouir toute seule. Bien, j'étais qu'avec moi-même et je me suis dit, ça y est, mon corps, je vais le découvrir différemment, avec moi-même et de façon complètement, complètement libre. Sacrée anecdote. La caravane a bougé ce jour-là.
Janine, 85 ans. À l'âge où j'aurais pu apprendre des choses, j'étais dans une école laïque. On ne savait rien sur rien, surtout quoi. Oh, ben si, les mains, les pieds, ça oui, quand même, on savait. On n'était pas borné à ce point. Mais après, pour le reste, les parties intimes, on connaissait même pas les noms.
Et vous n'aviez pas du tout de cours sur comment on fait les bébés ?
Ah non, ah non, 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 ça, on nous en parlait jamais, jamais. Et lorsque nous, on faisait une tentative pour en parler avec nos parents, alors là, c'était porte close. Moi, on m'avait répondu, maman m'avait dit, tu es trop jeune, je te le dirai plus tard. Et bien sûr, plus tard, j'ai jamais eu besoin qu'elle me le dise. C'est par rapport à une copine qui un jour est arrivée, nous a dit, venez vite, je sais tout. Ah, tout sur tout. Alors, il paraît que la nuit des noces, le mari prend une aiguille et te perce, te perce, te perce. Donc là, je peux vous assurer que pendant au moins 2 ans, plus personne ne voulait se marier. On avait la peur au ventre. Et voilà. Et puis après, on a commencé à savoir, parce que j'avais des amis parisiens qui étaient sûrement plus dégourdis que nous, et qui avaient eu un bouquin, qu'ils avaient d'ailleurs volé à une tante. Et sur ce bouquin, on expliquait. Donc, on était tous les trois, le frère, la sœur et moi, à étudier, d'après le livre, comment les choses pouvaient se passer. Et là, on a acquis quand même un petit peu de savoir.
Tu savais qu'il ne fallait pas avoir de relation avant le mariage, par exemple ?
Ah oui, mais alors ça, c'était sacré, par contre. Là, tu vraiment, absolument pas.
Et c'est qui te le disait ?
Ah ben ça déjà les parents, là les quand même les parents, mais ils te disaient simplement attention, tiens-toi correctement et tout, mais c'était pas dans les mots justes quoi, on te donnait pas des mots, des termes exacts et tout. Et nous donc on avait très peur de ça. Et quand on a commencé à fréquenter un garçon, les petites copines ou moi, eh ben il fallait pas qu'il s'éloigne trop parce que on voulait surtout pas apporter le déshonneur dans la famille. C'était comme ça. C'était pas qu'on n'en avait pas envie, certainement, mais c'était qu'on ne voulait pas. Alors, pour éviter d'avoir des enfants, à l'époque, c'était la fameuse méthode, comment ça s'appelait cette méthode ? Ogino, voilà, Ogino, qui n'était pas fiable du tout, paraît-il. Et moi, je me fiais à rien de tout ça, de toute façon. Préservatif, on n'en parlait pas. Si je veux vous faire rire, je vous dirai, avec la marche arrière, il fallait que ton mari soit assez gentil pour le comprendre. Et à ce moment-là, ben, c'était la seule solution qu'on avait, enfin, qu'on croyait avoir à l'époque. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient brillantes jusqu'au brevet, tout ça, et après, elles sont allées en école normale. Et là, ça a été la cata, parce qu'elles ont connu la liberté, et il y en a 2 ou 3 qui se sont retrouvées enceintes. Et alors là, chez beaucoup, après, c'était le drame, quoi. Les parents ne les voulaient plus, quoi. Ça, c'était une époque quand même très, très difficile. Hein. Très difficile. Et même quand on se mariait et tout, si on ne voulait pas d'enfants, alors là, on avait toujours une peur bleue. Et c'est vrai que même les garçons avaient du mérite, quoi, parce que... On leur disait toujours d'attendre quelque chose. C'était pas toujours évident, sûrement pour eux.
Et tu me disais tout à l'heure que toi, à ton époque, on vous disait pas ce que c'était que le clitoris.
Ah non, ça avait même pas. Non, c'était des mots. On connaissait pas, non. Je sais pas si on était trop dans l'enfance ou parce qu'on avait une jeunesse qui se passait bien. On cherchait pas non plus, nous aussi. On aurait pu peut-être, ne serait-ce que prendre un dictionnaire, chercher tous ces mots. Mais non, on le faisait pas. Non, on attendait. On verra lorsqu'on sera mariés comment ça se passe.
Et toi, du coup, après, quand t'as eu des enfants, t'as fait comment avec eux ?
Ah ben moi, déjà, c'était bien, c'était des garçons. Alors, du moment que tu as des garçons, tu as l'impression que tu as moins de choses à leur expliquer. Enfin, à part se tenir correct envers les filles et tout. Et quand ils ont été en âge de fréquenter tout ça, là, on en parlait librement, après, déjà, avec eux. On n'avait pas des mots justes, mais enfin, on leur disait par rapport aux jeunes filles, comment ils devaient se tenir et tout, et... pour éviter d'avoir des enfants, enfin tout ça. Ça, oui, 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 non, non, on en parlait avec eux quand même. Eux, ils n'étaient pas tellement demandeurs, parce qu'ils savaient. à l'époque. Après, ils savaient au lycée, déjà, un jeune qui était au lycée, il était au courant. Et après, il y a eu le planning familial. Ça, c'était très important parce que beaucoup de familles, de parents qui eux-mêmes ne savaient pas expliquer, en fin de compte, eh bien, et c'était leur recours. Ils disaient, mais il faut aller au planning familial, prenez des rendez-vous. On en connaît pas mal qui ont fait ça. C'était très bien.
Je m'appelle Elsa, j'ai 28 ans et je suis professeure des écoles depuis 6 ans. Alors, l'éducation à la sexualité que j'ai reçue dans mes souvenirs est celle qu'on m'a enseignée en cours de SVT au collège. Je dirais 4e, 3e à peu près. C'est des cours, disons, pas vraiment de sexualité, mais de biologie sexuelle, quoi. Je me souviens de quelques schémas, de quelques images, et du... c'était gênant. Voilà. Gênant parce qu'on était à l'âge où justement c'est un peu... c'est des questions qui sont sensibles, je pense, qu'on était tous un peu gênés, parce qu'en fait on n'en parlait pas entre nous. Donc c'était des... on osait prononcer des mots, entendre des mots qu'on n'osait pas... forcément dire entre nous à ce moment-là, ni dans nos familles, ni entre nous, quoi. Dans ma famille, l'éducation sexuelle que j'ai reçue, je dirais plus l'idée du consentement. Le fait de, voilà, si t'as envie, oui, si t'as pas envie, tu dis non. Voilà, ça oui. Après, sur le côté sexualité... disons que c'est plus des recommandations par rapport aux sexualités sanitaires, quoi. Infections, maladies, etc. Mais la sexualité plaisir, non. Alors, ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne avant d'attaquer ma vie sexuelle, je pense que c'est pas forcément qu'on m'apprenne, mais qu'on me montre plus d'images, je pense, de corps, d'organes sexuels, de parties... intime, etc. J'aurais aimé voir plus d'images comme ça. Qu'on me parle plus de qu'est-ce que c'est une relation sexuelle, quoi. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça... Enfin, tu vois, à partir de quand on peut dire que ça commence? À partir de quand on peut dire que c'est fini? Enfin, que c'est... Qu'on me montre pas juste un script tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on trouve, voilà, que tu peux trouver sur Internet ou dans le porno, quoi. Oui, je vois un besoin à l'éducation sexuelle, oui, dès le plus jeune âge. En tout cas, à l'éducation au respect du corps et de l'intimité de chacun, quoi. À l'école maternelle, je ne sais pas si on peut parler de sexualité, mais respecter le corps de l'autre, ne pas le toucher si l'autre n'a pas envie, respecter le corps de l'autre et faire en sorte que le sien soit respecté, oui. En tout cas, proposer un temps de réflexion, ouais, aux enseignants pour ça, peut-être avec des intervenants, avec des associations, pour parler de ça. Après, c'est quelque chose qui doit se faire en équipe, à mon avis, sur plusieurs années, etc., avec les collègues, quoi. C'est pas quelque chose, je pense, à faire solo dans sa classe.
Alexandre, infirmier scolaire.
Et donc, je suis infirmier éducateur en santé. Je travaille dans un collège et dans des écoles maternelles et primaires. Alors, ça fait 10 ans que je suis infirmier scolaire, mais j'étais déjà infirmier avant. Je travaillais notamment en pédopsychiatrie. Alors, nous, c'est les circulaires qui régissent un petit peu nos missions. Et la circulaire de nos missions, elle précise qu'on doit contribuer à l'éducation à la sexualité qui a lieu dans l'établissement scolaire. Et cette obligation, elle est de 3 séances par an. De de la maternelle jusqu'au lycée. Nous, les adultes, on contribue, des adultes de l'établissement scolaire, animent eux-mêmes les séances, que ce soit des infirmières, des assistantes sociales, et aussi des enseignants qui sont formés, ou d'autres personnels éducatifs. Mais parfois aussi, on peut faire intervenir des personnels extérieurs, donc des associations, alors notamment le planning familial, parce que c'est l'association qui est la plus active et qui est la plus en relation avec nous. On peut faire intervenir aussi le centre de planification familiale et d'orthogénie de l'hôpital, donc avec des infirmières qui sont formées. Et puis après, notamment pour la lutte contre l'homophobie, on fait intervenir aussi des associations comme Contact. C'est les formateurs qui viennent dans l'établissement. Et le gros avantage, c'est que c'est une formation d'équipe, on appelle ça. Et ces personnels, du coup, ils acquièrent une culture commune aussi par rapport à ce sujet-là. Par exemple, on va faire de la science et parler des différentes parties du corps. Et bien sûr, on va évoquer les parties intimes, comme on appelle. Puis on va aller dégager comme ça des éléments et des compétences sur le respect de son corps, le respect de l'autre, l'intimité, les différentes sphères aussi de respect que les élèves doivent appréhender, et du coup ça permet comme ça, de manière un peu plus douce, de pouvoir évoquer ces sujets-là sans aller dans un rapport parfois aussi frontal avec les parents, parce que c'est difficile pour des parents aussi, même si on essaye de travailler toujours en coéducation avec eux, de les intégrer dans ces sujets-là, c'est pas toujours évident, parce que chaque famille a aussi sa culture personnelle et sa culture familiale. Alors les séances, elles sont très différentes les unes des autres parce que en fait on part du principe qu'on va s'adapter en fonction des objectifs qu'on s'est fixés en équipe, c'est-à-dire qu'on se réunit en amont et on travaille ce qu'on appelle un parcours éducatif de santé. Et dans ce parcours éducatif de santé, on va évaluer un petit peu quels sont les besoins. Alors dans ces commissions, on peut discuter des qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins, et bien sûr on priorise parce qu'on peut pas tout faire non plus. Vraiment l'identification des émotions, mettre des mots sur les émotions, c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et l'âge avançant, on s'adapte aussi en fonction des problématiques qu'il peut y avoir, et on parle bien sûr d'homophobie, de transphobie, etc., puisque du coup ça découle, alors c'est pas lié directement à l'éducation à la sexualité telle qu'on pourrait se l'imaginer, mais c'est lié du coup aux pratiques sexuelles que peuvent avoir d'autres personnes et qui sont pas toutes hétérosexuelles dans la vie. Ça permet d'avoir aussi ces sujets-là qui sont abordés, et bien sûr on parle de toutes les prises de risques qu'il peut y avoir, notamment avec les conduites à risque que peuvent avoir les jeunes, et donc l'utilisation des moyens de protection pour éviter les infections sexuellement transmissibles, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors les ULIS, c'est les unités localisées d'inclusion scolaire, c'est-à-dire c'est des élèves qui sont en situation de handicap et qui sont inclus dans un établissement scolaire lambda, dans les classes de leur âge, malgré leurs difficultés. Et leurs difficultés sont palliées par des aides humaines, donc ce qu'on appelle les AESH, des auxiliaires, c'est des AVS. Moi, les ULIS que j'ai dans mon établissement, c'est des handicaps qui sont presque invisibles, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont des difficultés cognitives, des difficultés des fois relationnelles, mais qui ne posent pas de problème. Ils sont dans un établissement scolaire normal et ils passent inaperçus au milieu des autres élèves. En fait, il n'y a pas de texte spécifique pour leur éducation à la sexualité des élèves qui sont scolarisés en ULIS, parce qu'on part du principe qu'ils sont inclus dans leur classe d'âge. Donc du coup, quand on fait une intervention dans leur classe, on les inclut. Sauf si, bien sûr, on estime en équipe que ça peut être violent pour eux, ça peut être difficile, etc. Donc là, on peut proposer des alternatives. Mais l'objectif, c'est vraiment de les inclure au maximum. Après, nous, ce qu'on propose dans mon établissement scolaire, c'est qu'on inclut tous ces élèves dans leur classe d'affectation. Et on leur propose aussi une séance à part, entre eux et avec nous, pour justement qu'ils puissent aborder des sujets qu'ils n'auraient peut-être pas osé aborder en grand groupe. Donc déjà, c'est un plus petit groupe, ils se sentent plus en sécurité, ils se connaissent très bien entre eux. Et donc du coup, quand ils sont 4-5 élèves comme ça, ils peuvent avoir plus de facilité à poser des questions pour lesquelles ils n'auraient pas osé prendre la parole parce qu'ils se seraient sentis bêtes ou pas forcément légitimes. Avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a surtout une parole qui s'est un peu libérée sur ces sujets-là, c'est-à-dire que c'est peut-être moins tabou qu'il y a quelques décennies. Après, je ne veux pas faire un petit peu avoir un discours vieux jeu, mais il faut quand même se méfier des informations qui sont apportées. Et moi, ça m'arrive qu'il y ait des élèves qui viennent frapper à ma porte, qui me posent des questions sur leur sexualité, parce qu'ils sont inquiets d'avoir entendu quelque chose sur TikTok, d'un influenceur ou de quelqu'un qui se dit spécialiste en sexualité, par exemple, et qui va leur expliquer une donnée biologique, une information biologique, qui ne s'avère pas tout à fait correcte. Alors, c'est rarement vraiment quelque chose de dangereux et de faux, mais en tout cas, c'est souvent très décalé par rapport à la réalité. Et, ou alors ça met le prisme sur un problématique. Une problématique, ça va être la taille du pénis, ou ça va être des choses comme ça, qui sont quand même très limitées dans l'importance que ça peut avoir dans la sexualité. Et ça leur donne justement une importance qui est décalée. Après, je pense qu'on a des générations qui arrivent maintenant, avec cette masse d'informations à disposition, qui se positionnent en sachant. Et c'est peut-être plus là où c'est difficile, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ignorants, mais ils méconnaissent le sujet. Et c'est-à-dire qu'ils pensent le connaître. Et en fait... quand on creuse un petit peu, bah, ils ont les mêmes interrogations qu'il y a quelques décennies. C'est juste que, bah, ça, pensant que ça vient avec leur information, ils savent des choses, bah, ils n'ont pas forcément des comportements qui sont adaptés, ou alors des comportements et des connaissances qui sont clairement impactés et marqués par le patriarcat, qui est très, très, très présent sur les réseaux sociaux, hein. Et le fait que voilà, le rôle de la femme doit être celui-ci, le rôle de l'homme doit être celui-ci. Et c'est très rassurant pour des adolescents qui sont en pleine construction, hein, donc ils en ont besoin de ces choses-là, mais du coup, ça les nourrit d'éléments qui sont vraiment très négatifs pour leur propre construction et puis la construction de leur relation avec les autres, que ce soit avec les femmes ou avec les autres hommes aussi, parce que même les garçons entre eux ont des comportements qui sont très délétères à cause de ça. Bien sûr, les femmes sont les premières victimes parce que bah, c'est elles qui sont victimes des violences sexistes. Mais derrière, les hommes aussi en pâtissent sur leur propre ressenti de qui ils sont et aussi sur leur relation aux autres hommes. Les pistes d'amélioration qu'il pourrait y avoir, déjà, ce serait qu'il y ait de plus en plus d'adultes de la communauté éducative qui soient formés et qui puissent participer du coup à une éducation à la sexualité qui serait plus... comme créé par un événement, en tout cas une séance qui est identifiée, c'est tel jour à telle heure et ce sera fini, mais quelque chose qui soit vraiment, qui transpire dans tous les enseignements, et parce que c'est fait partie de la vie au même titre que comment on a mangé ce matin et comment on a bien dormi cette nuit. Je pense que déjà là, ça serait un bon point, parce que tout le monde serait à peu près à l'aise avec ça, en tout cas déjà à l'aise avec ses propres représentations, parce qu'il ne faut pas nier aussi qu'on a soi-même des propres clichés et des stéréotypes dans lesquels on a grandi. Donc le but, c'est d'en avoir conscience, pour pouvoir justement ensuite s'affranchir un petit peu de ça quand on est en posture d'éducateur.
Par Radio VLV et réalisé par Marie, Margot, Léa et Cheyenne pour l'association Femmes Solidaires.